Depuis le mois de janvier, le pass culture de 500 euros, dispositif porté par le ministère de la Culture, est étendu à tous les jeunes à partir de la 4e. Auparavant, il fallait avoir 18 ans pour y avoir accès. Une mesure récente qui date de l'été 2021 peut être un outil pour tenter de lutter contre les inégalités culturelles durablement ancrées dans la société française. En Bretagne, selon le recensement INSEE de 2015, le nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans s'élève à 547 460. Ce qui place la région au 10e rang en France métropolitaine. Des jeunes qui, à un peu plus de 50%, vivent en zone rurale, plus donc en ville et en milieu périurbain. Je précise que dans cette émission, nous parlerons aujourd'hui des ados qui ont entre 10 et 15 ans. Alors lorsqu'on veut pratiquer une activité culturelle ou sportive, qu'on est ado, on devrait se tourner vers la maison des jeunes et de la culture de sa ville. Mais ces associations reliées au ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, eh bien, on n'en a pas forcément une à côté de chez soi. Restent des espaces jeunes portés par certaines communes selon leur intérêt pour ce public qu'ils ne comprennent pas toujours. Également des espaces dédiés dans les médiathèques, là aussi communales ou intercommunales, ainsi que des activités proposées par des acteurs privés et associations. Là, l'offre varie évidemment d'un territoire à l'autre. Quand on parle d'inégalités éducatives, on va au-delà des inégalités culturelles puisqu'on élargit aux équipements sportifs et non pas uniquement scolaires ou culturels. Et les carences des politiques publiques, elles s'illustrent dans le champ des équipements, mais aussi des transports et des personnels dédiés à ce public. En quoi adolescents des villes et adolescents des champs n'ont pas un accès égal aux activités culturelles et sportives? Peut-on dire que les politiques publiques sont inefficaces dans ce champ? Quels sont les effets collatéraux sur la construction des goûts, étroitement liés, on le sait, au milieu social d'origine? Élément de réponse tout de suite, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui dans Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche, on reçoit Isabelle Danick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches en sociologie à l'université Rennes 2 et chercheur au laboratoire ESO, ESO pour Espace et Société. Et dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de Colette, Christian Lebar pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, je vous laisse la parole.
Isabelle Danick, vous avez co-dirigé cet essai qui réunit 11 chercheurs et chercheuses et vous avez exploité les données du programme INEDUC. Dites-nous ce qu'est ce programme et comment vous avez travaillé.
Oui, merci. Eh bien écoutez, c'est un programme qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui était initialement piloté par Olivier David. Et puis, comme il a été élu président de l'université, bon voilà, il nous a quittés dans cette recherche au bout de plus de 3 ans. En tout cas, ça s'est déroulé entre 2012 et 2015 avec un travail de terrain en 2013. Les collègues réunis étaient sociologues comme moi, mais aussi géographes ou chercheurs en sciences de l'éducation. Et on a fait un travail à la fois quantitatif avec un questionnaire auprès des adolescents, un autre questionnaire auprès des parents, de leurs parents. Et puis un travail qualitatif à la fois pour caractériser les sites d'enquête qu'on avait choisis. Donc on a enquêté en Bretagne, en Aquitaine et en Normandie, avec dans chacune de ces régions un site urbain, un site périurbain et un site rural, en référence à la nomenclature de l'INSEE à l'époque, hein, donc de 2010. On a également fait un travail d'observation, d'entretien auprès d'adolescents, auprès d'élus, auprès de professionnels, auprès de professionnels de l'éducation, voilà, sur ces 9 sites, hein, donc répartis sur ces 3 régions.
Vous avez travaillé avec 36 collèges, donc des centaines de garçons et de filles de 14-15 ans. Vous avez vu l'influence des espaces de vie donc sur les pratiques éducatives, les loisirs, et vous entendez le mot éducation au sens large, c'est-à-dire les influences qui marquent une vie. ou tout au long de la vie, que ce soit la famille, l'école, les amis, les associations, Internet et les outils numériques, etc. Donc vous avez rencontré ces collégiens et collégiennes, 14-15 ans, où rencontrer des jeunes de leur âge, où se retrouver, comment joindre les copains pendant les vacances scolaires et pendant l'année scolaire, comment pratiquer ensemble une activité culturelle ou sportive. Ce sont des questions très simples, très banales, et votre livre montre que les réponses sont très variées, inégalitaires et parfois injustes. Oui, visiblement, ce n'est pas facile d'être adolescent aujourd'hui quand on vit à la campagne ou périurbain en banlieue. Pourquoi ?
Alors, là on va au cœur de cette recherche. Effectivement, hein, c'est vraiment un gros travail dans ces trois régions qui nous a permis de dégager effectivement à la fois des régularités et puis de nuancer aussi justement ces régularités, ces déterminations sociales massives, avec pour originalité effectivement d'avoir une définition de l'éducation au sens vraiment large du terme. Et pour le coup, on ne s'intéresse pas seulement au rapport à l'école et à la réussite scolaire, mais aussi aux activités de loisirs qui nous semblent faire prendre toute leur part dans le processus d'éducation, dans l'acquisition de dispositions, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et l'autre originalité était d'essayer de cerner justement le poids du territoire, de l'espace de vie sur l'éducation, donc au sens large, mais en particulier sur les activités hors école. De loisirs, activités numériques. Et donc, pour le coup, on voit bien que les situations sont fortement disparates selon les lieux de vie. Alors, en lien avec les politiques publiques,
on y reviendra, bien sûr.
Territoires, en lien avec l'offre d'équipement, voilà, à proximité, en lien avec la possibilité de transport en commun, en lien avec la composition sociale des territoires. C'est vrai que le milieu social, hein, va aussi peser fortement sur les activités accessibles ou non aux adolescents, adolescentes. Et puis les ados eux-mêmes aussi, hein, ont une part de choix, on va dire, hein, avec des guillemets à ce terme, mais pèse aussi, hein, dans ce qu'il constitue comme répertoire d'activités. Oui.
Pour en revenir à la question, pourquoi c'est plus difficile et plus inégalitaire de grandir à la campagne ? Vous dites en milieu rural.
Oui, parce que justement, dans ces territoires, alors que ce soit en milieu rural ou dans les quartiers, enfin on va peut-être commencer par le milieu rural, même quand il y a une volonté politique, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, même quand il y a une volonté politique, les ressources à la fois humaines, en termes de compétences, en termes budgétaires, manquent souvent pour proposer une offre à destination des adolescents. Donc la priorité, bien souvent, va être mise sur les enfants. Et puis, les ados, ils passent un petit peu à la trappe, si je puis dire, hein, et véritablement, là, sur les trois sites, sur les trois communes rurales sur lesquelles on a enquêté, il n'y a pas une totale indifférence, encore que, bon, sur l'une des communes, on peut s'interroger, mais...
Laquelle ?
Oh bah, je ne sais pas si je peux les nommer. Villedieu-les-Poêles,
c'est dans votre livre, effectivement.
Villedieu-les-Poêles en Normandie et Montflanquin en Aquitaine, hein, ne manifestent pas une volonté extrêmement forte, hein, de s'investir sur cette population. Bon, juste pour l'anecdote, la MJC de Montflanquin est ouverte jusqu'à 18h et propose du bridge, des concours de Scrabble et des choses de la pétanque, je crois. Enfin, des choses qui manifestement...
Donc ça a été squatté par les seniors, les personnes âgées.
Oui, c'est effectivement approprié
MJC, Maison des Jeunes et de la Culture.
Par les personnes retraitées de la commune. Et de la même façon, à Villedieu-les-Poêles, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas non plus de...
Il y a un musée de la broderie quand même à Villedieu-les-Poêles.
Oui, effectivement, mais très, très clairement, les ados ne s'intéressent peu.
Ils ont tort.
À la broderie ou à la fonderie des cloches, puisque c'est aussi une spécialité locale. Ouais. Alors qu'à Pontrieux, par exemple, en Côte d'Armor, il y a une volonté de l'élu en particulier qu'on avait rencontré à l'époque, mais la seule salariée sur ce secteur enfance-jeunesse et passe déjà beaucoup de temps sur l'organisation du secteur enfance et arrive à programmer quelques activités avec les adolescents, mais sans avoir un local dédié, sans avoir de personnel à disposition. Donc c'est quand même extrêmement difficile.
Christian Lebar.
Alors, parmi les multiples raisons qui rendent ce livre tout à fait passionnant, il y en a une qui retient mon attention. Je ne suis pas spécialiste de ces questions. C'est effectivement, Colette l'a dit, le centrement sur la notion d'inégalité éducative et pas seulement scolaire. Ce qui me semble une ouverture à la fois... Alors, à la fois prudente, parce qu'effectivement, dans un travail collectif, il y a des gens qui travaillent sur les loisirs, d'autres sur l'école, etc. Donc, ça permet de faire tenir ensemble un peu tout. Mais je pense que ça va un peu au-delà. C'est-à-dire, il y a évidemment une réflexion sur l'espèce de volonté de désencastrer le scolaire stricto sensu dans quelque chose qui est plus généralement le culturel. Mais alors, du coup, comment on construit la notion d'inégalité éducative, parce que on peut vivre à la campagne, loin des médiathèques, loin des politiques culturelles en les ignorant, et pas pour autant être dans un dénuement éducatif au sens de Montaigne. Enfin, je me fais l'avocat du diable.
Oui. Inégalité éducative fait référence à l'accès. Et donc l'inégal accès aux ressources éducatives, entendu au sens large, c'est-à-dire non seulement les équipements, les services hein, à destination des adolescents, des adolescentes, mais également des personnels, des ressources matérielles aussi dans les familles. Hein. On avait des questions dans notre questionnaire sur le nombre de livres existants dans le foyer, le nombre de livres possédés par l'adolescent lui-même, et on a une disparité extrêmement forte.
Pourquoi pas inégalité culturelle alors ?
Parce qu'on a inclus aussi par exemple les activités sportives. Hein, donc effectivement, on a balayé très large les activités culturelles, les activités artistiques, les activités sportives, les activités numériques, qui peuvent être culturelles, mais pas que.
Pas forcément, oui.
pas que. Donc vous voyez, c'est plus large que l'activité culturelle en fait. Ouais.
Quand vous parliez tout à l'heure de l'accessibilité, le fait de vivre en milieu rural, c'est pas forcément très très loin. Il y a des équipements qui peuvent être relativement proches. Tout ce côté transport qui peut être ou pas un frein, et aussi toute la barrière symbolique dont vous parlez dans votre livre, entre une distance acceptable et une distance trop contraignante. J'aimerais bien que vous parliez de ça.
Effectivement, on a des obstacles de différentes natures qui interfèrent. Donc, il y a effectivement la distance géographique, hein, qui fait que, ben voilà, 20 km, ça peut paraître peu dans certaines familles où il y a l'un des parents qui est relativement disponible le mercredi et qui a une voiture, etc. Mais pour d'autres familles qui éventuellement n'ont pas de voiture ou qui travaillent, ça devient très difficile, voire impossible. Donc voilà, la distance géographique, mais aussi la distance culturelle, sociale, vis-à-vis de l'offre alentour, va peser très fortement. Et voilà, pour certaines familles et certains ados, l'offre accessible physiquement, si je puis dire, hein, ne les intéresse pas, ne les attire pas. On donne l'exemple, par exemple, de cette médiathèque de Montflanquin qui est dans une charmante petite rue, voilà, en pierre, enfin, avec tout le charme, tout le charme, voilà, que probablement notre génération trouverait tout à fait charmante, mais qui, aux yeux des adolescents, les font fuir, en fait, puisque, à leurs yeux, c'est vieillot, et ils imaginent absolument pas. Déjà, ils ne sont pas forcément très attirés par une médiathèque, enfin, bibliothèque. Hein. Et en plus, voilà, si ça leur apparaît être un lieu pour vieux, pour reprendre leur formulation, Ils vont plutôt aller à la médiathèque de la commune voisine, qui effectivement est plus moderne, dans une rue commerçante et qui...
Et oui, des escalators.
Qui, voilà, à leurs yeux, incarnent la modernité. Et voilà, c'est ces distances-là symboliques hein, qui... On a un chercheur qui parle de prégnance symbolique hein, par rapport aux lieux, justement, qui font qu'on est attiré, au contraire, repoussé par certains lieux. Et ça joue aussi hein, dans cette fréquentation, cette non-fréquentation de l'offre alentour.
Vous citez aussi un animateur ou un éducateur de Pontrieux, donc ça c'est dans les Côtes d'Armor, qui dit que Pontrieux est à un quart d'heure en train ou en bus... ou de Guingamp, la plus grande ville, ou de Paimpol. Et il dit, il parle des ados qu'il connaît, avec qui il travaille, etc. Ils vivent en vase clos, enfermés. Seuls les plus débrouillards vont à la mer en bus.
Effectivement, là encore, on voit que... À cet obstacle physique, matériel, peut s'ajouter des distances culturelles, sociales. Et je nuancerai son propos par des entretiens qu'on a fait avec des adolescents qui nous disaient aller de loin en loin, le samedi par exemple, à la ville voisine, voilà, pour faire ce que font tous les ados, hein, aller traîner en ville. Et donc voilà, il a un propos un petit peu généralisant. Alors, c'est vrai qu'on est toujours plus marqué par ceux qui, par la difficulté peut-être, mais là on a vraiment une grande diversité de situations, y compris chez les ados ruraux. Hein, voilà.
Christian.
Oui, je pensais en vous lisant au livre de Nicolas Réani sur les... Oui. Réani, c'est ça, hein, je ne comprends pas. Pardon, j'aurais dû vérifier avant de venir. Qui s'appelle Les gars du coin, qui fait vraiment écho à cette problématique-là. Hein, alors qui, tout à la fois, mais c'est aussi l'intérêt de votre travail, croise les variables. C'est-à-dire qu'il s'agit de penser en même temps les inégalités en référence au clivage rural-urbain, mais évidemment aussi à la variable genre, qui est absolument centrale ici, et bien sûr, sans oublier, la variable classe sociale. Donc je trouve que c'est aussi l'intérêt de faire dialoguer des géographes et des sociologues, c'est qu'évidemment, le centre de gravité d'une contribution à l'autre ne sera pas le même.
Oui, oui. Et il y a le pendant, alors...
Oui, il y a les filles du coin qui viennent de sortir.
Voilà, il y a les filles du coin de Yael Anselem Mangui, oui. Et donc, dans les deux cas, ils s'intéressent à des ruraux, mais à des jeunes, ce ne sont pas des adolescents, hein, des jeunes plus âgés.
Ouais, c'est vrai.
Oui. Mais néanmoins, effectivement, enfin, on retrouve l'interférence de tous ces facteurs-là dans leur existence et dans leur situation de vie.
Le monde de la mobylette chez les garçons en milieu rural et de la fumette, en fait. Hein.
Oui, notamment. Mais là, pour le coup, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les ados. C'est-à-dire que chez les ados ruraux, ceux qui ont la chance d'avoir un engin motorisé, scooter, mobylette ou autre, évidemment, ont une capacité d'action hein, et donc un accès aux ressources aussi éducatives bien plus grand. Et ce sont plus souvent des garçons que des filles qui obtiennent des parents ces engins. Donc là, ça fait partie des différences qu'on voit nettement dans les situations des filles et des garçons.
Ouais. Pour prolonger ces obstacles culturels, mentaux, on ne va pas spontanément au musée, à la piscine ou à la maison de quartier. Et donc, parce que ça peut coincer dans la tête, parce que ça chamboule des habitudes personnelles et familiales, j'aimerais bien que vous prolongiez sur toutes ces représentations dans le livre, par exemple, concernant le quartier des Gailleuls à Rennes. Une fille dit la maison de quartier des Gailleuls, maintenant c'est le fief des garçons. Elle, c'est une fille, donc elle la fréquente pas. Vous avez cité bien sûr Montflanquin et sa très jolie bibliothèque trop vieillotte et trop historique. Et vous dites, je suppose que c'est au sein du quartier des Gailleuls à Rennes, au sein d'un même quartier, alors que les équipements sont à disposition, qu'il y a des transports en commun dans toute la ville et toute la métropole, au sein d'un même quartier, il y a des différences entre des familles aisées, je ne sais pas s'il faut dire aisées ou moyennes, socio-économiques, et des familles plus défavorisées, issues de l'immigration. Et au sein d'un même quartier, il n'y a pas du tout les mêmes manières de vivre le quartier. Donc, les relations entre parents et enfants ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on favorise? J'aimerais bien que vous parliez de...
Il y a plein de choses dans votre question. Peut-être juste remonte à la construction des goûts. Hein, c'est vrai que aller au musée, on n'a pas entendu beaucoup d'ados. Alors déjà, c'est assez peu réalisé. C'est généralement en famille, pendant les vacances. Et ça concerne quand même une petite frange, je ne sais plus si c'est 5%. Enfin, voilà, c'est quand même assez limité. Ou alors, c'est la sortie scolaire aussi, avec les établissements. Ils ne sont pas très fans, hein, pour la plupart, même dans ceux qui pratiquent. Pour la lecture aussi, on voit un éventail, et là, c'est quand même très corrélé au milieu social, hein, de la même façon que le musée, d'ailleurs. On voit bien que c'est la famille, en premier lieu, hein, qui va être à l'origine, hein, d'une construction d'un goût, hein, d'une attraction pour la lecture, pour le spectacle vivant, pour le théâtre, pour... Et ça, c'est effectivement très fort, on le voit vraiment très nettement. Et puis pour le deuxième aspect, c'est-à-dire la façon dont les parents vont encadrer, hein, ces activités, ça tient pour une part au rapport au quartier. Et on a dans les villes, hein, des quartiers administratifs qui sont en fait une juxtaposition d'îlots, en tout cas c'est ce que l'on voit très nettement dans le quartier nord-est de Rennes, une juxtaposition d'îlots qui sont très disparates dans leur composition sociale. Si on regarde...
Et architectural, on peut aussi dire ça.
Et architectural, tout à fait. Enfin, on peut lire même la composition sociale dans l'urbanisme, oui. Si on regarde le Gros Chêne, hein, qui est l'îlot classé prioritaire dans la politique de la ville, juste de l'autre côté du boulevard, on a un ensemble de maisons plutôt confortables, on va dire. Et c'est comme ça une mosaïque donc à la fois urbanistique, mais aussi sociale, qui génère des rapports au territoire très différents et évidemment des rapports, un encadrement des activités des enfants assez différent.
Donnez des exemples.
Alors, par exemple, pour les familles qui vivent sur le Gros Chêne, on a eu beaucoup de mal à rencontrer les parents. Et donc, ce que j'énonce là s'appuie essentiellement sur le propos des professionnels et des ados eux-mêmes qui racontent ce qu'ils peuvent faire. Et on voit des familles qui, pour les unes, sont... positivement relié à leur territoire, à leur îlot, avec finalement plutôt une valorisation de la solidarité de quartier, de l'interconnaissance, etc. Et donc des ados qui sont autorisés à circuler dans ce quartier, à accéder aux ressources qui sont proposées, notamment par le Cercle Paul Bert, hein, voilà. Et qui par ailleurs sont dissuadés, voire même parfois interdits d'aller au centre-ville, vu comme un lieu de danger, etc., en particulier pour les filles. Et on a certaines familles qui, au contraire, ont développé un rapport très négatif avec ce secteur, qui y vivent néanmoins, mais qui aspirent à en repartir, et qui là vont parfois être complètement à l'envers, c'est-à-dire... interdire à leurs enfants de fréquenter, même de sortir sur le secteur, et par contre accepter, autoriser, voire inciter à aller vers le centre-ville. Donc l'espace n'explique pas tout, hein, c'est aussi le rapport à l'espace qui est à prendre en compte.
Vous disiez aussi que dans ces secteurs, disons, plus privilégiés, pavillonnaires, etc., les parents parlaient entre eux de l'éducation, des loisirs de leurs enfants, et il y avait plein de solutions collectives de dépannage, de covoiturage qu'il n'y a pas forcément dans un milieu plus populaire, plus défavorisé.
Ouais. Ça, on l'a vu effectivement ici à Rennes, mais aussi dans les autres villes, hein, qu'il y avait des réseaux d'interconnaissance dans les familles classe moyenne supérieure qui amènent à plein de choses. C'est à la fois la régulation. Là, par exemple, au moment où on enquêtait, c'était surtout une mère disant à l'autre, surtout tu n'achètes pas, hein, lâche pas pour le téléphone portable, tu n'achètes pas de téléphone portable, sinon je vais être obligée de faire pareil. Et donc, il y avait comme ça une sorte de solidarité entre parents pour se mettre d'accord en fait sur l'encadrement des enfants, puisqu'ils savent bien que s'il y en a un qui déroge, ça crée une faille et du coup, les parents parents sont moins forts par rapport aux ados. Et de la même façon, ça peut être par rapport au déplacement pour aller à une activité où il va y avoir une solidarité de soit les enfants vont ensemble et du coup les parents sont tranquillisés, ou soit un parent amène et va chercher. Enfin voilà, et tout ça, effectivement, on ne l'a pas vu, en tout cas, dans nos terrains, là, dans les communes rurales.
Je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle, disons culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors je suis tombé sur un magazine qui s'appelle Catalogue des ressources. Alors, c'est un truc en trois volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Le goût bourgeois ancien, qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines. Dans ces jeux où chacun se définit par rapport à celui qui est juste au-dessous. Bon, hein. Il y a des renversements constants. Bon. Et par exemple, le fait de revenir aux blue jeans ou de revenir à des choses apparemment populaires change complètement de sens quand le oui est une non nié, quand c'est une double négation. La deux chevaux de l'intellectuel n'a rien à voir avec la deux chevaux de l'ouvrier agricole. Je dis que les gens sont infiniment moins libres qu'ils ne croient.
Extrait d'une vidéo consacrée à Pierre Bourdieu, réalisée par France Culture début 2022. Nos goûts sont des dégoûts, y explique-t-il face à Bernard Pivot. C'est visible sur YouTube.
Christian.
Oui, quand on regarde les nombreux tableaux et graphiques qui ponctuent cette recherche de façon très, très, très précise, il y a des données empiriques d'enquête quantitatives. Évidemment, l'ombre de Bourdieu et Passeron plane quand même assez fortement parce que, bon, ben voilà, pour l'essentiel, ça confirme des choses qui sont établies depuis plusieurs décennies. Et moi, je relirais ça à la problématique de l'offre et de la demande que vous mobilisez beaucoup. Hein. Bon, l'hypothèse de Bourdieu et Passeron étant que tout se joue du côté de la demande, hein, c'est-à-dire que voilà, les gens ont envie ou pas, ils ont le goût ou pas, et que on peut côté offre s'évertuer à proposer tous les équipements qu'on veut. On ne fera pas aller les gens à faible capital culturel au théâtre, ni à l'opéra, ni au musée, même si c'est gratuit, etc. Bon, donc face à cette vision fataliste, le point de vue qui est développé dans l'ouvrage et qui fait écho à d'autres recherches est beaucoup plus nuancé et en particulier insiste sur l'importance de l'offre. Et là, je trouve que c'est intéressant de raisonner en termes vraiment géographiques. La localisation des équipements, on évoquait tout à l'heure leur style, enfin, voilà, les types de symboliques qui peuvent accompagner une médiathèque, les choix architecturaux, etc. Et puis, bah, les politiques municipales, tout simplement. Quoi. Est-ce que on peut ou pas être attractif auprès d'un jeune public qui, effectivement, n'a pas la culture comme... voilà, qui n'est pas forcément spontanément disposé à passer ses heures libres dans une médiathèque.
Ce que vous dites me fait penser sur le fait que... Alors, on n'était pas spécialement bourdieusiens, hein, mais effectivement, on était quand même assez...
Les données le sont, elles.
Alors voilà, c'est ça. Là, pour le coup, mais c'est ce qu'on s'est dit, quoi. Au dépouillement des matériaux, c'était quand même... Enfin, on était surpris nous-mêmes, ouais. En fait, par le poids des déterminations sociales.
Mais c'est aussi le matériau agrégé qui fait ça, parce que dès qu'on rentre un petit peu dans le...
Selon, effectivement, le zoom, la focale, hein, on voit que ça se nuance beaucoup, effectivement, dès qu'on se rapproche. Mais quand même, sur les statistiques, il y a des déterminations sociales de genre, d'origine sociale, qui sont très fortes. Et... l'offre, on voit que l'offre a quand même un poids dans les activités. Et là, je donne juste un exemple. On était très surpris à Pontrieux d'avoir des adolescentes qui, en entretien, nous disaient qu'elles faisaient de la boxe, qu'elles faisaient du kart, enfin, des choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Et en fait, on a compris quand on a rencontré la professionnelle, donc l'unique professionnelle rémunérée, puisqu'il y a des bénévoles aussi, mais qui s'occupe des ados sur le secteur. Et c'est une femme qui a une formation d'animatrice sportive et qui donc propose des activités à destination des ados, filles et gars, plutôt sportives. Et donc, pour les adolescentes, eh ben, en gros, c'est soit aller faire de la boxe, ben, on va tenter, quoi. Ou sinon, il n'y a pas vraiment d'autre chose, quoi. Donc,
L'influence des goûts et de la personnalité.
Voilà.
De,
et puis finalement, une partie d'entre elles, ils ont pris goût. Enfin, voilà, des choses comme ça qui, là, ne sont pas des goûts préconstitués, mais découlent de la limitation de l'offre, déjà. Hein, parce que c'est vrai que dans une ville, même en milieu périurbain, elles auraient sans doute trouvé de la danse ou je ne sais pas, du fitness. Enfin, bref, quelque chose qui, la Zumba, qui les attirait a priori davantage. Et puis là, ben, la contrainte. Amène parfois hein, des activités qui n'étaient pas forcément attendues. Ouais.
On reviendra sur les politiques publiques, locales ou nationales après la pause musicale. C'est le groupe Soucoupe Violente qui nous interprète Teenage Partner.
Well, she was only a teenage partner. Well, she was only a teenage partner, and she was only 17. She said she loved me, I loved her too. We went to dancing like lovers do. We were so happy, but now she's gone. And she's gone, gone, gone. Gone, 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 yeah. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. And she's gone. And she was only 17. She caught my eye at the teenage dance. She caught my eye up in a trance. But now she's gone. Don't got romance. Well, she was only a teenage partner. She was only a teenage partner. And she was only 17. And she's gone, gone, gone. Gone, 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 yeah. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. And she's gone. And she was only 17. Well, she was only a teenage partner. Well, she was only a teenage partner. And she was only 17. She said she loved me, I loved her too. We went to dancing like lovers do. We were so happy, but now she's gone. She caught my eye at a teenage dance. She caught my eye up in a trance. But now she's gone. Don't got romance. And she's gone, gone, gone. Gone, 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 yeah. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. And she's gone. And she was only 17.
Thank you.
violente chante Teenage Partner sur Canal B sur 94.0. Vous écoutez Chercheurs en ville, émission consacrée à la recherche universitaire. Et aujourd'hui, on reçoit Isabelle Danik, maître de conférence, habilitée à diriger des recherches en sociologie à l'université Rennes 2, également chercheur au laboratoire ESO pour Espace et Société. Dans son ouvrage paru en 2021, Adolescentes et adolescents des villes et des champs, la dimension spatiale des inégalités éducatives, elle documente l'inégal accès aux ressources éducatives qu'on habite en ville ou à la campagne et milieu périurbain, dans un cadre bien connu de construction des goûts au sein de la famille.
Comment les politiques publiques, que ce soit locales ou nationales, atténuent-elles ou aggravent-elles les inégalités éducatives ? Parce que dans beaucoup de villes et intercommunalités, il y a des initiatives qui sont tout à fait louables et efficaces, parfois, mais il y a aussi plein de négatifs. Alors allons-y sur les politiques locales.
Alors les politiques locales, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, sont très disparates d'une commune à une autre, et en particulier, on pourrait rajouter aussi d'un département à un autre et d'une région à une autre. Et de ce fait, hein, alors en lien avec les ressources, hein, de la commune, plus la commune est urbanisée et plus les politiques publiques à destination des adolescents, hein, vont être élaborées, étoffées, avec un service dédié, avec des professionnels, etc. Et dans les petites communes rurales, eh bien, effectivement, il n'y a pas les moyens, et donc ils focusent sur les enfants. Et les ados, bon, parfois il n'y a absolument rien qui est fait. Donc du coup, ça crée des disparités très fortes entre communes rurales. La dichotomie qu'on avait fait, enfin là, c'est pas une dichotomie, la catégorisation qu'on avait adoptée au départ, rural, périurbain, urbain, fonctionne moyennement. Et on s'est aperçu que les clivages, ils étaient plutôt entre les grosses villes, ce que l'INSEE appelle les villes-centres des aires urbaines, donc des villes de plus de 50 000 habitants, et puis les autres communes urbaines, d'autre part, et puis les communes rurales. Et là, pour le coup, on voit très clairement que ces grosses villes ont des moyens, ont... alors, encore faut-il effectivement la volonté politique, mais quand même, il y a une saisie des dispositifs nationaux qui sont souvent sur la base du volontariat. Hein, donc, il y a beaucoup de dispositifs CAF, de dispositifs ministériels qui doivent être activés par les communes pour que effectivement il y ait une action locale. Mais ça n'est pas fait, hein, ou beaucoup moins dans les communes périurbaines et ou dans les communes urbaines de plus petite taille, et encore moins dans les communes rurales.
Il y a un chiffre que vous donnez qui est inquiétant, enfin un peu décourageant. 36% des élus constatent qu'ils méconnaissent les besoins, les envies, les goûts des 15-18 ans, des 13-18 ans. Donc, ok, alors, on part de loin là quand même.
Ouais.
Parce qu'il y a aussi, comme vous le disiez, confusion entre les besoins, les envies des enfants et des adolescents. Ils ont l'air plus au point sur ce qui est enfance, petite enfance.
Alors c'est vrai que là, c'est des données qui émanent de la CNAF, puisque nous, on n'a pas fait de questionnaire auprès des élus, mais les entretiens qu'on a faits convergent complètement avec ça, avec ce constat-là. C'est-à-dire qu'ils mettent un petit peu dans le même sac, j'ai envie de dire, enfance, adolescence, enfin voilà. Et ils ont beaucoup de mal à... Il y a une grande méconnaissance, finalement, de la population adolescente, et leurs besoins ne sont pas du tout appréhendés. Mais il n'y a pas non plus de... Le souci d'aller faire ne serait-ce qu'une enquête pour bien mieux cerner justement ces attentes que pourraient avoir les ados ou ces besoins. Et donc voilà, en gros, c'est une population qui leur paraît un peu à distance.
Entre deux âges.
Oui, plutôt difficile, perçue comme difficile. Les politiques enfance, elles sont... pour une part obligatoire, quasiment obligatoire, donc créer une offre d'accueil, etc., pour les familles, ça, c'est indispensable dans une grande part des communes. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles ils y sont depuis longtemps, ils sont familiers, si je puis dire, alors que ados, bon, ça n'apparaît pas comme indispensable, et puis oui, ils cernent pas bien pour une grande part. Et c'est souvent les techniciens, donc les directeurs de service, par exemple, quand il y a un service qui vont être plus force de proposition, sur cette population. Mais là encore faut-il qu'ils aient la possibilité de travailler à la fois sur... Parce que c'est souvent la même personne qui dirige un service enfance-adolescence. Donc, avec la mise en place à cette époque-là des temps périscolaires de loisirs, ils ont eu beaucoup de mal à investir aussi sur les adolescents.
Vous avez la situation presque caricaturale, mais c'est vrai que votre étude date de 2015. Peut-être que ça a été ce problème a été résolu depuis à Deauville, où il y a un club ado, mais qui ne fonctionne que l'été, et donc qui intéresse, qui est surtout fréquenté par les enfants de touristes et les enfants de résidences secondaires.
Oui. Oui, alors c'est vrai que ça paraît un peu caricatural, et je ne sais pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui à Deauville, mais les auditeurs pourront appeler. Mais effectivement, voilà, typiquement, on a une offre qui est complètement à côté des besoins locaux. Et qui plus est, il semble qu'il y a aussi des coûts d'activité qui ne soient pas en adéquation avec les capacités budgétaires des familles locales. Donc,
en même temps, il n'y a aucune demande formulée. C'est extrêmement compliqué. Moi, je suis dans une commune périurbaine où il y a effectivement des tentatives pour mettre en place de la concertation avec les collégiens sous forme d'un conseil municipal, etc. Bon, on réussit de cette façon-là à faire remonter quelques demandes, à réguler un peu, à monter en généralité sur des projets un peu collectifs. Mais tout ça ne se fait qu'au prix d'un accompagnement par des professionnels de l'enfance, etc., qui est quand même une maïeutique très, très, très difficile, on a l'impression. Beaucoup plus facile avec les plus petits et avec les plus âgés, j'ai l'impression.
Les plus petits, leurs besoins sont définis en grande part par les parents, donc ça simplifie. Mais il y a quand même des professionnels, il y a des gens formés quand même autour de l'adolescent. Je pense que, s'il y avait volonté politique d'une part et capacité budgétaire, j'ai l'impression que ça pourrait suivre, quoi, hein, mais il peut manquer l'un ou l'autre ou les deux. Et en conséquence, il n'y a pas l'embauche d'une personne ou de plusieurs personnes qui pourraient travailler vraiment vers cette population-là. Mais on voit néanmoins des initiatives intéressantes. Hein,
Et puis est-ce que tout n'est pas écrasé quand même un peu par le sport, le sport, peut-être les activités liées au spectacle vivant aussi, qui fonctionnent mieux là pour le coup avec des...
Alors, 4 jeunes sur 5 pratiquent régulièrement un sport. Donc ça, c'est quand même très fort. Et là, pour le coup, alors ça concerne encore un peu davantage les milieux urbains. Mais néanmoins, milieu rural, il y a quand même le club de foot, éventuellement d'autres sports. À Pontrieux, il y a un club de kayak très actif. Selon les lieux, il y a quand même une proposition, là, pour le coup, qui n'a pas son pendant culturel ou artistique, hein, généralement, en milieu rural.
J'ai perdu le fil.
Je pose la question du spectacle vivant, de la musique,
Oui,
du
à
théâtre.
Cet âge-là, finalement, on a été surpris. Hein. Ils ne vont pas si souvent que ça à des spectacles vivants et à des concerts. Là-dessus...
Les écoles de musique.
Oui, la pratique de musicale reste à la même hauteur que les activités artistiques. Hein. C'est un jeune sur cinq à la louche qui a une activité artistique régulière. Donc c'est bien en deçà des activités sportives.
Ouais. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Christian, est-ce que vous disiez, dans le livre, on voit aussi parfois des contradictions entre les élus et justement les professionnels. Les professionnels déplorant que les ados ne soient pas associés pour des décisions les concernant, choix d'activité, etc. Et même s'ils sont consultés pour ça, en revanche, la localisation de l'équipement, sa décoration, je ne sais pas, son aménagement, là, ils n'ont plus du tout, évidemment, voix au chapitre. Un aspect qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est les élus sont parfois ou souvent très, attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de l'équipement. Et les pros de l'animation, eux, disent, nous, ce qu'on veut, c'est... aller plus sur le terrain, chercher les ados qui ne fréquentent pas ce lieu. C'est ça notre travail aussi. Et là, c'est un travail plus long, plus souterrain, plus ingrat peut-être, moins spectaculaire. Donc il y a un peu tout ça.
C'est vrai que du côté des élus, oui, il y a l'oubli entre guillemets des ados, et il peut y avoir réaction quand il y a justement dégradation, incivilité. Enfin voilà, là pour le coup, ou alors voilà des stationnements extérieurs d'attroupement d'ados. Là pour le coup, il peut y avoir réaction. Ouais, oui. Mais aller en amont de problèmes vers cette population n'est pas encore suffisamment répandu, en particulier dans les communes où il n'y a pas les professionnels formés là-dessus. Ouais.
Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous ?
Le samedi après-midi, avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot.
Bon, je traîne un peu ouais, dans les cafés, tout ça, dans les balles le soir.
Je joue au cinéma, je fais de la musique, je lis.
Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. J'aime beaucoup le cinéma, je fais une collection de porte-clés. Je fréquente pas les maisons de jeunes, ça m'intéresse pas particulièrement.
Sylvie, 18 ans, je suis étudiante en droit. J'aime beaucoup la lecture, la natation, la danse particulièrement, le sport aussi.
Vous ne fréquentez pas les maisons de jeunes ?
Si.
Pas du lendemain ?
Si, la lecture. Le cinéma aussi. J'aime beaucoup le cinéma.
Je fais partie d'un groupe de jeunes. On fait un ciné-club, photo-club.
C'est ce qui occupe vos loisirs.
Oui.
Extrait d'archives de l'INA, Institut National Audiovisuel. Que font les jeunes de leur temps libre ? C'est la question posée en 1966 par l'ORTF à des 16-20 ans, qui les questionne également sur leur violon dingue, c'est-à-dire leur passion.
Est-ce que le Internet et le numérique peut pallier les manques locaux et nationaux ? Et on va dire que tous les ados sont entre guillemets numériques. Mais quand on lit vos travaux, on voit bien que c'est pas du tout le même usage et les mêmes pratiques que l'on soit d'abord dans le domaine scolaire et évidemment hors scolaire dans la famille et les loisirs.
Alors c'est vrai que les activités numériques aujourd'hui et déjà au moment de notre enquête sont une grande part des activités des adolescents. Ça vient juste après le être ensemble pour se balader, voilà. Être ensemble physiquement ou être ensemble à distance par le téléphone ou par les réseaux sociaux. Donc pour le coup, les activités numériques sont extrêmement présentes avec un niveau d'équipement des familles qui déjà à l'époque était très élevé en ordinateur, téléphone portable.
Tablette, console.
Oui, donc les ados ont accès pour leur très grande part. Il y a une petite frange en situation de très très grande précarité qui effectivement n'ont pas l'ordinateur, le téléphone portable, mais voilà, dans la grande part des familles, y compris les familles modestes, il y a ces équipements. L'encadrement va être très différent selon le milieu social, et là pour le coup on le voit de façon vraiment très très nette, avec bon, je schématise, hein, mais des enfants de familles populaires qui ont les équipements dans leur chambre, parfois chambre partagée, donc équipement partagé avec les frères et sœurs, et qui finalement font un peu ce qu'ils veulent avec. Et puis des familles moyennes ou supérieures qui vont mettre systématiquement l'ordinateur qu'utilisent les ados dans une pièce commune pour pouvoir surveiller ce qu'ils font, pour pouvoir limiter le temps d'utilisation. Donc en ce sens, il y a des inégalités très fortes d'usage du numérique. Est-ce que ça peut compenser d'autres inégalités d'accès à d'autres ressources éducatives ? Pour l'heure, ça ne semble pas le cas. Enfin, c'est-à-dire que là, dans les établissements où on est allé, ça reste à ce moment-là des activités numériques assez limitées, hein, et puis les usages des ados eux-mêmes, les usages autonomes des ados eux-mêmes, hein, sont beaucoup des usages, alors il y a une catégorisation qu'on a reprise qui distingue entre usage récréatif, usage communicationnel et usage documentaire. C'est beaucoup des usages récréatifs et communicationnels, avec une corrélation.
C'est-à-dire avec leurs amis,
voilà,
avec leur communauté.
Donc les réseaux sociaux, voilà.
Et documentaire, c'est plus, par exemple,
alors,
pour des recherches scolaires.
Ça va être des recherches soit personnelles, soit pour l'école. Et puis, usage récréatif, hein, voilà, les jeux en ligne en particulier. Et on voit dans les croisements statistiques qui ont pu être faits dans notre enquête, que il y a une corrélation plutôt positive entre la situation scolaire des ados et les usages récréatifs, aussi avec les usages documentaires, bon ça c'est plus attendu, par contre une corrélation plutôt négative hein, de ceux qui ont des usages numériques communicationnels importants et leur situation scolaire plutôt en difficulté scolaire.
Dans votre enquête, dans le questionnaire, alors là ça m'a bluffé, il y a une case, les ados qui envoient jusqu'à 200 SMS par jour.
Oui. Ah oui.
Il y a une case et ils répondent. Et oui, il y a un nombre important, de 200 par jour. Bien sûr, entre copains, entre pères.
Ouais. Il y a effectivement une large disparité entre les ados, mais on en a... Là, j'ai peur de dire une bêtise, j'ai plus le chiffre de tête, hein, mais c'est autour de 15% oui. Qui effectivement envoyaient plus de 200 SMS par jour, donc ce qui peut nous paraître absolument énorme, mais à leurs yeux, enfin voilà, ils passent souvent entre une heure et deux heures, à ce moment de l'enquête, hein, sur des écrans. Enfin, là, je parle écran connecté. Et autant avec la télé, avec là aussi un grand éparpillement. Hein, mais alors des fois, on se dit, mais c'est pas possible, ils dorment plus ou comment ils font. Mais en fait, il y a aussi des multi-usages simultanés. Donc, il est très fréquent qu'ils soient à la fois devant la télé et en train d'envoyer des messages à des copains par Internet.
Christian Lebar.
Oui, montrez bien que le Internet creuse les inégalités d'une certaine façon, puisque chacun y trouve ce qui renforce son propre rapport au monde. Donc il y a un effet plutôt d'enfermement qu'un effet d'arrachement à soi. Mais il y a une autre question qui est redoutable, hein, mais qui est évidemment passionnante, c'est celle du lien entre Internet, qu'on a souvent présenté comme le symbole de la déterritorialisation, et la variable territoire, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Internet fait aux populations rurales et aux jeunes de milieu rural? Et est-ce que, en particulier pour ceux qui sont un petit peu à l'écart de ces offres, dont on disait l'importance tout à l'heure, de ces offres éducatives, qui sont un petit peu dans les trous de la raquette des politiques locales d'offres, est-ce que Internet peut produire des effets de correction? Parce que les sociétés rurales sont aussi des sociétés qui produisent de l'excellence scolaire.
On avait cette hypothèse, enfin cette idée-là est venue sur le terrain en fait. Au moment de nos enquêtes, des entretiens avec les ados, on avait l'impression qu'effectivement certains compensaient le vide d'activité par des activités numériques, et en fait ça n'apparaît pas dans les statistiques, donc c'était plus une déformation liée au cas qu'on a interviewé. Ce qui est certain, c'est que il y a des territoires ruraux qui sont quand même très mal lotis en termes de tout simplement d'accès à Internet.
En plus.
De connexion. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que pour certains d'entre eux, la question ne se pose même pas, puisque là où ils habitent, il n'y a pas du tout de connexion, une connexion très mauvaise. Donc ça, c'est une première inégalité forte. Mais au-delà de ça, nos statistiques ne montrent pas un usage plus intensif en milieu rural ou un usage particulier des activités spécifiques. Là, pour le coup, les usages numériques sont pas marqués par l'espace de vie.
D'accord.
Beaucoup plus par le milieu social.
D'accord. Bah
le genre.
C'est une façon de répondre. Hein. C'est un résultat de recherche.
Oui.
Vous dites aussi dans votre étude, selon le média, l'outil, il y a une différence entre les jeux vidéo sur Internet et les jeux vidéo sur console. Les jeux vidéo sur Internet étant plus conviviaux, ouverts sur le monde, sur des stratégies, sur des réflexions, sur des alliances. Et les jeux vidéo sur console, plus refermés sur soi-même dans l'espace et le temps.
Là, cette distinction-là, elle est apparue au moment des analyses statistiques, hein, où on a vu qu'effectivement, les enfants en situation de difficulté scolaire jouaient à la console et beaucoup moins ou pas avec des jeux en ligne. Et les ados qui jouent à des jeux en ligne étaient plus souvent en situation favorable scolairement. Donc, très nettement, là, et ça casse aussi cette idée que le numérique est mauvais pour la scolarité. Enfin, il faut être beaucoup plus fin que ça.
Mais vous l'interprétez comment,
même sur les jeux, c'est exactement ce qui était énoncé là, à savoir que le jeu en console, c'est plutôt un enfermement, ouais, finalement. Alors que les jeux en ligne suppose de développer des compétences, une ouverture avec d'autres que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas, et amène une sorte de curiosité finalement, puisqu'ils peuvent se retrouver aussi bien à jouer avec des étrangers, enfin vous voyez.
Ouais. Et là, témoigne d'une capacité à s'ouvrir, à affronter les inconnus.
Ou entraîne une ouverture qui n'est peut-être pas recherchée, mais qui arrive finalement à travers cette activité.
Isabelle Danik, notre émission s'achève presque. On était en période de présidentielle et de législative. Le débat jeunesse, la question jeunesse a été absente de ces débats. Vos commentaires ?
Eh bien, c'est dommage, fort dommage. Les jeunes, de façon générale, et les adolescents encore plus, j'ai l'impression, ont été... sont passés sous les radars, là, j'ai l'impression. Hein. Moi, j'ai pas entendu de propositions fortes à leur destination. Et pour le coup, c'est quand même une population là qui a beaucoup pâti, je pense, de la pandémie ces deux dernières années. Alors évidemment, c'est bien après notre enquête, hein, mais je pense qu'il y a vraiment besoin de se mobiliser très fortement sur les jeunes et les adolescents aussi, mais y compris, là, je pense à mes étudiants aussi, qui sont dans des situations, pour certains, extrêmement difficiles, à la fois matériellement et psychologiquement, et il est vraiment temps qu'il y ait une volonté politique, là, de se coltiner aux difficultés.
Sur ces bonnes paroles, Isabelle Danik, on vous remercie infiniment. Je rappelle que vous avez co-dirigé l'ouvrage « Adolescentes et adolescents des villes et des champs », La dimension spatiale des inégalités éducatives. C'est publié par les presses universitaires de Rennes et ça coûte 19 euros. Merci Christian Lebar.
Merci.
Merci notre réalisatrice Lucie Louapre et à bientôt pour une prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal B.
Merci à vous.